La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Bonjour tout le monde, c'est la midinale du 12 octobre. Je viens de vérifier, il y a la date sous les yeux, c'est bon, ça j'ai bon. On est super nombreux dans le super studio. Je suis avec Nico.
Bonjour.
Avec Lionel.
Salut.
Avec Seb.
Salut.
Avec Thibaut.
Salut.
Et avec Fanche.
Oh
Fanche
yeah.
Oh yeah. Ça va?
Oui, je vais vous faire, je vais vous la faire comme dans mon billet de ce matin. Salut les copains.
Bah ouais.
Les copines, bien sûr.
Bah tu sais quoi, c'est en fait on va commencer par toi. Je vais recontextualiser parce que je sais que t'aimes bien. Donc,
oui.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui à nos micros Fanche de radiofanche.blogspot.fr,
wow.
Le rédacteur à plus de 1000 billets et à des millions de lecteurs. J'étais bien ?
Pour le moins.
Bah, au moins.
Alors, ouais. Chères auditrices, chers auditeurs, merci, madame, je ne sais plus comment on t'appelle dans la radio. Parce que j'ai
appelle-moi Madeleine, j'aime bien.
Ah oui, c'est vrai, Madeleine, chère Madeleine et chers participants in the studio. Oui, je vais vous parler un petit peu de quelque chose qui m'a, et vous le savez, depuis longtemps navré, c'est la fin de la radio publique. Alors, comme me le disait Dubois il n'y a pas tellement longtemps, oui, mais franchement, il n'y a pas que ça dans la vie, la radio publique. Oui, c'est vrai, il y a Radio Piquet et toutes les autres. Mais bon, j'ai été biberonné depuis très longtemps à cette drogue d'une certaine écoute et tout. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui m'a fait écrire ce matin, c'est que quand j'ai passé ma 9e année, le 17 juillet, je me suis dit, bon, allez, stop, on arrête les frais. J'ai plus grand chose à dire sur la radio publique puisque je n'écoute plus la radio publique ou pratiquement plus. Ce qui est grave, c'est pas ma petite personne, ça n'a aucun intérêt.
Encore
c'est pas non plus toutes les personnes qui écoutent la radio qui y trouvent leur compte. Il y a derrière quelque chose de beaucoup plus fort et d'insidieux qui a à voir avec quelque chose. Il est facile de le citer quand on l'a pas complètement lu. Guy Debord. La société du spectacle. Aujourd'hui, les choses ne tiennent plus que par la communication. C'est-à-dire que la présidente de Radio France, Sybille Veil, peut dire tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est qu'elle l'écrive sur Twitter. De ce fait, tous ses affidés, le directeur de ceci, le directeur de cela, le sous-directeur de ceci, etc., etc. Et aussi tout ça au féminin, bien évidemment. Et donc, ça arrive sous les yeux de la tutelle. Ils se disent, c'est formidable. Au mois de juillet, Sybille Veil a décidé d'écrire sur la tour de la Maison de la Radio, qui surplombe largement la Maison de la Radio, Maison de la Radio et de la Musique. Ben voyons, Léon. Parce que c'est forcément, on pensait bien, les gens étaient des abrutis avant qu'elle parle. Les gens pensaient qu'à la radio, on faisait que parler. Si elle était un peu moins con, cette dame, si au lieu de faire de l'ENA, elle avait fait de l'écoute de la radio, elle aurait compris que depuis ses origines, la radio, c'est de la musique. Puisque les premières radios, à la fois publiques et privées, ont comblé l'antenne soit avec de la musique, soit avec des orchestres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste à Radio France quatre formations musicales. Bien. Donc, tout le monde fait de la relance de communication. Et ce qui est détestable, c'est que c'est ça qui fait à la fois l'opinion et à la fois l'effet. C'est-à-dire que tout le monde dira, oui, alors, depuis que Sybille Veil est là, c'est formidable parce que cette dame a été nommée par l'Institut Théodule, quatrième meilleure patronne de France. Et alors ? Et alors, ça a à voir, qu'est-ce que ça a à voir avec la radio ? Il y a dans son entreprise des gens qui sont en grande dépression, des gens qui, via leur syndicat, viennent de signer un accord pour sortir de l'entreprise dans des conditions pas trop déplorables, et donc, de fait, fragiliser dans certains cas des équipes et tout, et des façons de faire. Donc, il y a ce terrible, effroyable management qui décide de saper d'un côté, remonter de l'autre, avec des formules qui, c'est mon point de vue et je le partage, déshumanisent absolument la radio. Alors après, forcément, si je suis comme la majorité des 15 millions de Français qui écoutent la radio publique tous les jours dans ma voiture, ben oui, si j'ai le choix entre cette tâche de bourdin et un peu de musique sur France Inter, oui, une bonne émission d'histoire sur France Culture, oui, je vais y aller. Et de fait, je vais être comptabilisé. J'ai un gros défaut. Je sais ce qui se passe derrière. C'est toujours ça qui m'a intéressé dans la vie et qui a fait mon métier. Quand j'étais tout petit, j'ai vu en allant au cirque... Non, c'est faux. J'ai vu l'après-midi, quand s'installait le chapiteau du cirque, un homme qui tapait sur la masse, qui tapait avec sa masse sur les pieux pour tenir le chapiteau. Et le soir, je l'ai reconnu. Il était déguisé en clown. Et j'ai donc compris, tout enfant que j'étais, qu'il y avait quelque chose qui... Oui, c'est normal qu'il fasse ça. Ils étaient tous dans la même équipe. Mais ça perdait de sa magie. Et depuis que j'ai commencé à écrire mon blog, j'avais 10 ans auparavant, pendant 10 ans, tourné autour de la maison de la radio, rencontré des producteurs pour comprendre les choses. Et donc, c'est mon défaut. Je ne sais pas écouter une émission BA en disant « qu'est-ce que c'est merveilleux ?» Parce que je sais qu'autour, ceux qui sont au micro sont très privilégiés. Quand ils ont gardé leur poste d'une année sur l'autre, roule ma poule. Mais les équipes, leurs équipes quelquefois, les équipes autour, les petits métiers derrière, il y a quand même 4100 personnes Radio France et 6 à Paris, il y en a environ 3000. Les 1500 autres ou les 1100 autres se répartissant dans ce que la France géopolitique appelle les territoires, que s'en est à pleurer, donc dans les villes où il y a France Bleue. Donc tout ce magma, toute cette com, toutes ces choses cachées font que ça me dégoûte. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Alors j'écoute en streaming et non pas en podcast les émissions qui m'intéressent, parce que le podcast, est, le streaming aussi, mais le podcast est le super piège. Je clique, donc je suis comptabilisé, et après, Madame Veil, demain, à 17h15, à l'Assemblée nationale, devant la commission de la culture, va rendre compte, comme elle le fait annuellement, du contrat d'objectifs et de moyens, le COM, qui est son cap à tenir pendant les 4 ou 5 ans pour lesquels il a été signé par l'État. Et là, ça va être... Je vais regarder, bien sûr. J'ai plus d'Éric, alors je m'ennuie un peu. Donc je vais regarder Cyril Veil. Et je vais me taper sur les cuisses. Ça va être que de la roucoule. Et si jamais il y avait un député ou une députée qui levait la main pour dire... Madame Veil, vous passez votre temps à nous dire que vous êtes la reine des podcasts, que vous en inventez de partout, par la porte, par la fenêtre, etc. etc. Mais Madame Veil, est-ce que vous pourriez arrêter de faire les antennes ? Ne faites plus que des podcasts, tout le monde va s'y retrouver, à l'heure qu'il veut, quand il veut, la nuit, le jour, etc. etc. Donc ça lui pend au nez, ça arrivera. Les charmantes auditrices et auditeurs de Radio Piquet se souviendront qu'un vieux rabougri au fin fond de la campagne finistérienne a dit un jour que la radio était promise à une belle mort parce que le sauveur s'appelle Monsieur ou Madame Podcast. Voilà.
Merci Cassandre. je voulais juste être sûr que c'est pour toutes les raisons que tu viens d'énoncer là, que tu es béat d'admiration quand tu écoutes Radio Piquet, hein. On est d'accord ?
Alors, bien sûr, je suis béat d'admiration. On ne pourra pas me reprocher la flagornerie. Je vais dire pourquoi. Tu le sais, je vous ai connu à tous vos débuts, à vos tout débuts. On a parlé ensemble. Je vous ai pas cassé les pieds parce que vous êtes des gens adorables.
Oui.
Je vous ai expliqué que c'était important quand on dans le couloir, on discutait de Guy Debord, ne pas démarrer au micro sans contextualiser ce que tu as très bien fait au début. Vous avez pour vous, et je le dis, je le redis, sans flagornerie, la joie, les convictions, la hargne de changer à votre petite échelle les choses, et tout ça, c'est fort séduisant, et vous faites des émissions qui vont dans ce sens-là, et vous êtes raccord avec vos idéaux, et une des des beaux moments que j'ai vécu avec vous cette année, c'est au mois de février, pendant qu'à Brest se tenait un festival de propagande, on était tous serrés dans le studio avec des gens de Toulouse, de Carcassonne, de Naples et d'ailleurs, ça c'est pour les copains d'Italie, et voilà, donc oui, j'écoute pas autant encore que j'écoutais la radio publique, mais sans doute que ça va venir, voilà.
Merci beaucoup, Fanche.
T'en prie,
à bientôt.
T'en prie, bonne journée à vous, bonne midinale.
Ouais, bisous, à bientôt. Alors, il faut pas dire on enchaîne. On enchaîne. Du coup, Seb, tu voulais, toi, nous parler d'un article de Bastamag.
Ouais, ce matin, je me suis réveillé et j'ai dit, tiens, faut que je trouve quelque chose pour la midinale. Alors, je suis allé sur lundi matin et Bastamag, mes deux médias préférés de s'informer autrement. Et je suis tombé sur un article du 5 octobre qui nous parle d'un grand projet inutile supplémentaire qui est en train de se jouer ou pas dans l'estuaire de la Loire. Hein, donc je rappelle un peu pour ceux qui ne savent pas, c'est sur le site du Carnet. Donc c'est autour de Nantes-Saint-Nazaire. Hein, c'est le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire qui veut implanter un parc éco-technologique dédié aux énergies renouvelables. Alors, sur le papier, comme ça, on parle d'énergie renouvelable et
comment
tout.
Comment tu peux être contre ?
Voilà, c'est ça. Ben, le seul problème, c'est que le site qui a été choisi, donc le site du Carnet, encore une fois, contient une zone humide. On aime bien construire à Nantes des choses dans les zones humides et détruire tout ce qui va. Donc ça menace quand même 110 hectares d'espace naturel, dont 51 hectares de zone humide, ce qui n'est pas rien, quoi. Un hectare, hein, c'est à peu près l'équivalent de deux stades de foot, quand même, pour se donner une idée. Et il y a quand même 116 espèces animales et végétales qui y vivent, des espèces protégées qui sont encore une fois mises en danger. Et mises en danger donc pour un projet de transition, enfin, pour faire un truc de transition énergétique. Alors, pourquoi cet article on vous donnera les liens hein, pour aller. Je ne vais pas vous lire tout l'article de Bastamag, qui est assez loin et qui est bien fait. Pourquoi il m'a intéressé? Donc, il y a une ZAD qui s'est installée, il y a un collectif qui s'appelle Stop Carnet qui s'est mis en place, vous pourrez trouver toutes les infos. Et il m'a fait écho ce matin parce que, en fait, ce projet bénéficie, comme 70 autres projets en France, d'un fameux label qui s'appelle le label Clé en main, un dispositif gouvernemental qui a été mis en place en avril 2019 par notre président, enfin le président Macron, pas le nôtre. Et donc en fait, ce dispositif Clé en main permet, si j'ai bien compris, et je crois que j'ai à peu près bien compris, mais j'aurais bien aimé vous donner les détails, de livrer. Ça vise à. Le projet, le but, c'était de réindustrialiser la France pour atteindre le plein emploi en 2025. Il est optimiste, Macron. Quitte à s'arranger un peu avec le droit et les règlements. Hein. Donc, en gros, dans le cas du Carnet, il y avait une étude d'impact qui avait été commandée par le grand port de Nantes-Saint-Nazaire, commandée auprès de qui, je ne sais pas, qui justifierait l'artificialisation du site. Par le fait que cet aménagement serait en phase avec la politique énergétique de l'Europe et avec la lutte contre le changement climatique. Et donc, qu'est-ce que ça permet, en fait, ce truc ? Bah, ça permet d'éviter quand même des études d'impact écologique un peu plus poussées. J'ai même vu que ça évitait d'aller faire des fouilles archéologiques préalables que des trucs comme ça. Donc, c'est bien, en gros, on a pondu une loi pour aller au-dessus des lois pour pouvoir lancer des projets de béton. De bétonisation plus vite. Et pourquoi j'ai dit, tiens, j'aime bien cet article et tout, parce qu'en fait, hier soir, je m'ennuyais un peu, là, vers 1 ou 2 heures du mat, et j'étais plus en état de lire, et je suis tombé sur un reportage sur France 5, qui s'appelle « Et pour quelques hectares de plus ». Alors là, c'est marrant, parce que tout se reliait. Et en fait, c'est un reportage qui parle de la... pardon, de la bétonisation des surfaces agricoles, des terres cultivables plutôt, on va dire, en France, en sachant quand même que chaque année, dans l'Hexagone, 60 000 hectares de terres agricoles sont transformés en hypermarché, en stade de foot, en immeuble, en parking, etc., etc. C'est assez énorme. D'ailleurs, le reportage est pas mal parce que toutes les 20 minutes, ils vous font « Tiens, là, ça fait 20 minutes que vous regardez le documentaire et là, on en est déjà à tant d'hectares de béton recouvrant les surfaces agricoles, etc. »
En France.
Juste en France. Donc, ça donne une idée de ce qui peut se passer dans le monde. Non, mais c'est bien. En plus, ça fait écho à l'époque où on parle des... Toi, il y a les inondations et tout. Bah oui, quand tu bétonises des zones humides, forcément, la zone humide ne fait plus son boulot et ne retient pas l'eau, quoi. Donc, ça coule. Et donc, ce qui est marrant dans le parallèle entre les deux histoires, c'est qu'il parle donc dans ce reportage de télé, là, enfin, c'est un documentaire sur France 5 qui est redisponible. Vous le retrouverez sur le site de France Télé en rediffusion jusqu'au 19 octobre. Là, ils disent qu'il est disponible. On vous mettra le lien aussi si vous regardez ça dans la semaine. Il parle à un moment de, bah, par exemple, d'un décathlon. Comment un décathlon a eu des terres agricoles, puis à pas cher, vous allez voir, à pas cher, ou comment le stade du Grand Lyon, appartenant à M. Aulas, a pu naître et a pu bénéficier d'argent public. Parce que le but, comment ça marche? Bah, par exemple, vous avez des zones humides qui appartiennent à la municipalité, mais il n'y a rien dessus, on les laisse comme ça, et donc c'est des zones déclarées normalement dans les PLU non constructibles. Alors, quand un village, une ville, bref, une communauté veut vendre ses terrains, il doit d'abord faire appel à un organisme qui est, vous regardez, je redonnerai tous les détails, j'ai plus le nom en tête, mais qui va évaluer le prix du terrain. Comme ces terres sont à ce moment-là en non constructible, le prix est dévalué. Enfin, il n'est pas dévalué, il est super bas, puisque ce n'est pas constructible. Par exemple, pour le décathlon, il y avait eu, en gros, ils avaient évalué à 3,50 € le mètre carré, le terrain.
Ah oui.
C'est pas cher. Et puis derrière, le maire, qu'est-ce qu'il fait? Un coup qu'il a fait son évaluation, eh ben, il change le PLU et il transforme les terres en zone constructible.
Oui.
Pour que Decathlon puisse construire son bâtiment. Mais le problème, c'est qu'il ne refait pas une évaluation au prix d'un terrain constructible, sur une zone constructible. Donc le terrain est vendu au prix du non constructible à Decathlon.
Putain.
Donc, et alors après, ils ont rappelé, par exemple, l'organisme qui avait fait l'évaluation. Ils ont dit, mais ça, si vous saviez que c'était une zone constructible, vous l'aurez évalué à combien? Ils disent, oh, bah, entre 20 et 30 euros, soit 10 fois plus cher, quoi. Donc ça fait quand même, on passe d'un fois 10 sur un achat de terrain, c'est quand même assez énorme. Alors, il y a ce scandale-là, et alors là, on va encore plus loin avec le stade du Grand Lyon, qui est donc un projet privé, hein, qui appartient à Jean-Michel Aulas, et qui s'est attribué, enfin, grâce à Gérard Collomb, le maire de Lyon, parce que c'est des grands potes depuis dizaines d'années, a eu des terrains dans les mêmes conditions. Ils ont trouvé un terrain sur la commune du Grand Lyon, enfin sur autour là. Ils ont fait une éval du terrain en zone non constructible, en non constructible. Bon, là, c'était évalué comme c'est à côté d'une grande ville à 40 euros le mètre carré. Derrière, ils ont changé le PLU, ils l'ont passé en constructible et bim, on vend le truc à Jean-Michel Aulas qui se lance dans son projet. Il économise quand même sur cette histoire. Ils ont fait une éval 50 millions d'euros. Le promoteur immobilier engagé par Aulas pour faire ce truc dit si on n'a pas ces 50 millions, notre projet, on les a pas, on peut pas le faire. Donc quand même, grâce à Gérard Collomb, déjà, le projet se fait. Alors Gérard Collomb, il était encore plus loin. Parce que en 2007 ou 2008, il propose un amendement qui déclarerait d'intérêt général la création de grands stades pouvant accueillir des manifestations, enfin des choses, des matchs ou des concerts, des trucs, de le placer dans l'intérêt général. Ça a été refusé à l'époque. L'amendement n'est pas passé, mais il s'en est pas démonté. Parce qu'en fait, un an après, en avril, mai, juin 2019, cet amendement revient dans le cadre d'une loi sur le tourisme. Et là, ce coup-ci, passe. Alors, qu'est-ce qu'il a de terrible, cet amendement ? C'est qu'à partir du moment où c'est déclaré d'intérêt général, ça autorise les agglomérations, enfin les pouvoirs publics, à investir des thunes pour donner accès à ce stade, à ces grands trucs, quoi. Et donc, dans le cadre du projet du Grand Lyon, qui est un projet en tout à 600 millions, je crois, mais donc, il y a les 50 millions économisés sur les terres dès le départ, et il y a un investissement de 200 millions, à peu près, voire plus, de la ville de Lyon pour construire une route, une ligne de tramway supplémentaire et des parkings pour accéder au Grand Stade. Grand Stade, que je le répète, appartient à Aulas et du privé. Donc on utilise de l'argent public dans le cadre d'un projet privé pour faire gagner de l'argent au privé.
Voilà. C'est la nouvelle forme du service public.
Voilà. Ouais, c'est ça. Le public pour le privé, quoi. Hein, c'est... Donc voilà, il est très bien fait, mais en tout cas, entre l'article du Bastamag qui parle de la nouvelle loi de Macron là, de 2019 et déjà de voir les pratiques d'il y a 10 ans en arrière vis-à-vis de ces trucs-là, on voit bien comment on peut faire confiance à notre gouvernement et comment ils utilisent correctement notre argent. On vous mettra les liens donc dans l'article.
On fait une très courte pause. On est le 12 octobre. Amis chômeurs à la ramasse comme moi, il vous reste 3 jours pour vous actualiser.
Pôle emploi, on est là pour vous. Normalement, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, restez chez vous. Comme d'habitude, c'est vraiment très simple. Si ce n'est pas possible pour vous, c'est vraiment très simple. On est là pour vous. Il faut continuer à rester chez vous, sur votre espace personnel. On est là. Nous redoublons d'efforts pour vous. Alors restez chez vous en appelant le 39 39 39 39 49. On est là pour vous.
Sous réserve des conditions d'éligibilité et de l'étude de votre dossier, on ne vous lâchera pas.
Nico, tu venais nous parler de Lubrizol ?
Ouais, vite fait. C'est parce qu'il y a un an, il y avait eu l'incendie à l'usine Lubrizol à Rouen. Une catastrophe écologique hallucinante. Et donc voilà, ça fait un an, et du coup il y a quand même une lutte là-bas d'habitants et d'habitantes qui ont créé des collectifs pour se battre, pour dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment, parce que l'enjeu c'est les tentatives par l'entreprise Lubrizol, qui appartient à un grand groupe, dont le propriétaire c'est un des plus grands milliardaires de la planète, dont le nom m'échappe là. Donc il y a des tentatives de ce groupe-là et des politiciens derrière de un petit peu étouffer les responsabilités des uns et des autres. Donc c'est un enjeu important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui sont les responsables ? Il y a un excellent dossier qui parle de tout cela dans la revue Z, le dernier numéro de la revue Z qui est sorti cet été, là. Il y a aussi des articles dans Bastamag, j'ai vu, qui en parlent. Donc je voulais juste signaler cela, que ce n'est pas fini cette histoire, et que allez vous informer et allez soutenir comme vous pouvez les gens qui habitent là-bas. Donc quand même, c'est quand même une catastrophe assez grave, une pollution atmosphérique et des sols, etc. Comme il en arrive souvent, et c'est tu.
Ouais, avec un déni.
C'est déformé, hein. Un déni hallucinant, de la part aussi de l'État.
Ouais, ouais.
Toujours le même dans les bons coups, quoi. Pardon.
On finit la revue de presse plus joyeusement. Oui. Lionel, tu nous annonces une sortie.
C'est la sortie d'une bande dessinée donc, qui s'appelle Les géométriquement corrects aventures de Marcel Triangle et René Ron, en gilet jaune. Donc c'est à Aou Édition, collection Pangolin Malin. Et donc voilà, elle est en vente à la petite librairie près des comment dire près des Halles Saint-Martin.
Oui.
L'adresse exacte c'est
rue Danton.
Rue Danton. Et
c'est ce qui est une adresse exacte.
C'est vachement exact.
C'est sur Brest, je précise.
C'est sur Brest, et toujours sur Brest, elle est en vente aussi au bouquiniste de la place Guéra. L'adresse exacte, si vous voulez.
Rue Navarre. Hein.
Rue Navarre. Et donc voilà, je ne sais pas si je peux lire la dernière de couverture, peut-être.
Vas-y.
Donc, retrouver Monsieur Rond et Monsieur Triangle, sympathiques personnages géométriques, mais néanmoins idiots. Plongés dans les affres de la grande histoire à laquelle, il faut bien le dire, ils n'y comprennent pas grand-chose. Au fil des pages, c'est tout l'univers du peuple des ronds-points qui est revisité. Giratoire, cabane, brasero alimenté sans discontinuer d'inévitables palettes, manifestations et velléités révolutionnaires, black bloc et bluette, chefs et sous-chefs tyranniques, casque à cornes et bonnet rouge, liesse collective et cri exutoire. Retrouvez aussi toute la morgue et propagande médiatique des chaînes d'infos en continu, avec coups bas et injonctions à condamner la violence, des complots plus ou moins réels, une ambiance fin de siècle, alors qu'il ne débute qu'à peine. Confinement et survivalisme, masques et pangolins, GJ Art et Stock Car, où cela nous mènera-t-il? Les gilets jaunes n'étaient qu'un début, une étincelle, à nous d'organiser la suite. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, on sera toujours là. Et d'entendre loin mugir, aou, 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 un cri qui se rapproche, pas celui d'une bête immonde, non, mais un cri qui libère, un cri de résistance. Et donc voilà, mais donc la BD est plutôt, se veut drôle, normalement, c'est pas, voilà, c'est juste l'introduction, enfin la préface, et puis la dernière couverture, on en profite pour placer un petit tract, enfin un petit, voilà, un petit...
Ouais, non, mais...
un message un peu plus politique. Mais okay. Sinon, c'est pas didactique. Voilà.
Moi, j'ai une question. Elle est à quel prix, la BD?
Alors, bon, on a mis prix libre. C'était peut-être une erreur, parce qu'elle elle coûte un peu cher. Mais,
Du coup, c'est un prix libre. Il faudrait combien pour que ce soit correct pour vous?
Ça fait mal à dire, mais c'est 6,35 €. Ouais.
Okay.
Ah bah tu vois, je comptais l'acheter 10 € en me disant voilà. Est-ce que ça suffit à couvrir les frais, quoi.
Et il y en a 5 chez le bouquiniste, voilà. Après, à la petite librairie, elle assurera peut-être le service après-vente, enfin ouais. De vente plus, avec en disant peut-être le prix libre, et puis si les gens... Le coût de production, je veux dire, mais après, si les gens ils peuvent l'acheter moins, bien sûr. Ouais. Et on refera notre tirage moins luxueux, parce que là, il y avait la couverture cartonnée.
La couleur.
Couleur, 210 grammes, et il fait 60 pages. Et donc voilà, et c'est la continuation d'une série, hein. Il y avait eu Monsieur Rond tout court, ouais. Enfin, en gros, le titre à rallonge, là, mais il y a donc aussi... en mode western, un autre dans l'espace, un autre roman noir. Donc voilà, à chaque fois, il change de... Et le prochain, ça sera au goulag. La plus longue, histoire, parce qu'elle fera environ 80 pages.
Ok, et une question pour nos amis auditeurs d'Hexagone ou de plus loin, est-ce qu'il y a moyen qu'ils commandent pour que ça leur soit envoyé ou un truc comme ça?
Oui, vous pouvez écrire @riseup.net et on vous enverra. On n'a jamais fait ça encore.
Je mets peut-être les éditeurs dans l'embarras. Quoi. Mais c'est non. Des pangolins malins, il devrait y avoir.
Non, mais ça devrait pouvoir se faire. On a sorti aussi des stickers. On réfléchit encore à les mettre en vente en ligne. Bon, ça fait encore plus de travail. Mais sinon, voilà. Et tout ça, c'est consultable, comme d'habitude, sur le site gilletjaunebrest.com, où il y a quelques extraits, d'ailleurs, des planches. Et oui, et précision aussi. C'est un dessin... c'est des personnages géométriques, dans le sens que c'était parti d'un truc où... les formes géométriques sont censées dire quelque chose des personnages et du monde dans lequel on vit, quoi. Par exemple, donc Monsieur Carré, ça va être le petit chef sur le camp des Gilets jaunes, ou au Goulag, ça sera un chef de camp. Voilà, et pareil, quand ce sera en mode western, ça sera
le shérif.
Le patron de la car et compagnie, ouais, c'est ça, ah, ouais, oui. Au western, c'est ça. Et donc pareil, voilà, Boita et Rond et Triangle qui sont complètement cons, hein, faut bien le dire. Et un côté très enfantin, voilà. Et puis il y a Bobby Parallelepiped, c'est dur à dire, qui est un peu l'homme de main à chaque fois de Carré. Et qui est un peu un méchant, quoi. Et voilà, il y a Monsieur Truc, hein, qui est un peu plus l'artiste, donc qui lui est agéométrique, donc complètement boursouflé, une espèce de boule bizarre. Et voilà, après ça peut se décliner un peu, pas à l'infini, parce que bon, le nombre de figures géométriques est relativement restreint. Il y aura Marie Solange Losange, Monsieur Rectangle, Monsieur Ovale, tout ça. Bon, voilà.
Ok.
Monsieur Hexagone pour le.
Monsieur Hexagone, ouais, il y a Roberta Hexagone. Ouais.
On fait une pause musicale et on revient pour la deuxième partie. Je vous préviens, c'est moi qui ai choisi la musique, c'est que des trucs qui donnent envie de se pendre. Donc on va écouter Nick Cave et après on va écouter Vic Chestnut. Bonne chance pour les 10 minutes à venir.
From the sky, crash-landed in a field near the River Ader. Flowers spring from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers. In a hole beneath a bridge, you convalesced, you fashioned masks of clay and twigs. You cried beneath the dripping trees, ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man waking covered in blood that is not yours. Yellow dress, surrounded by a charm of hummingbirds. You're a young girl full of forbidden energy, flickering in the gloom. You're a drug addict lying on your back in a Tijuana hotel. My voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. You're an African doctor, harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by a fire, hear the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator, don't you see? With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. Let us sit together until the moment comes. With my voice, Together in the dark until the moment comes. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you.
A friend of mine, I thought I would lose my mind, but I found out with time that really I was not ready. No, no. Oh,
made those dear to me. And tease me with your sweet relief. You are cruel and you are constant. When my mom was cancer sick, she fought but then succumbed to it. But you made her beg for it. Lord Jesus, please, I'm ready. Oh,